Bonjour et bienvenue. Pour notre analyse aujourd'hui, on a une pièce assez unique sur la table. Un numéro de l'hebdomadaire marocain Loji High Week, celui de la mi-novembre 2025. L'idée, c'est simple. On va feuilleter ces pages ensemble et essayer de capter un peu le pouls du Maroc à cet instant T. On va plonger dans les grands projets, bien sûr, mais aussi dans les enjeux du quotidien, la diplomatie, bref. Une immersion pour comprendre un pays en pleine ébullition.
Oui, c'est un excellent exercice. Un magazine comme ça, c'est un instantané. Une photo de famille d'un pays, à un moment donné. On y voit ce qu'on veut montrer au monde, les grandes ambitions, mais aussi, en lisant un peu entre les lignes, les tensions, les défis plus discrets. C'est souvent dans ce contraste que se cache le plus intéressant.
Exactement. Et ce qui saute aux yeux en premier, c'est justement cette vitrine. Le dossier d'ouverture a un titre qui en dit long, J-30, Yes Weekend 2025. On parle bien sûr de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'événement commence le 21 décembre, donc on est dans la dernière ligne droite. Et l'échelle du projet est juste colossale.
Ah oui, colossale.
9 stades.
Dans 6 villes.
On n'est pas dans la petite rénovation là.
Ah non, c'est un effort national qui est monumental. Et il faut dire tout de suite, cette CAN, tout le monde sait que c'est une sorte de grande répétition générale avant le vrai test.
La Coupe du Monde 2030.
Exactement. Co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Donc la pression, elle est maximale. Chaque stade, chaque route, chaque hôtel, tout est scruté à la loupe. Et pas seulement par l'Afrique, par le monde entier.
On le sent bien dans les détails qui sont donnés. Rabat est décrite comme l'épicentre du tournoi, avec 4 stades. Le plus emblématique, le complexe Prince Moulay Abdellah, a été entièrement reconstruit. Il passe à 69 000 places. Mais le plus grand du pays, c'est à Tanger, le stade Ibn Battuta, 75 000 places. Il y a même un effort pour donner une âme à ces constructions. On parle du stade Moulay Al-Hassan à Rabat, avec une identité visuelle inspirée des traditions marocaines.
Et c'est là que ça devient plus subtil que de simples infrastructures. En fait, il y a un autre article, un peu plus loin dans le magazine, qui prend tout son sens quand on le connecte à ce dossier. Il parle d'un partenariat stratégique signé entre l'UNESCO et une fondation, la Fondation Maroc 2030. L'idée, ce n'est pas juste de construire des stades. C'est de construire un héritage.
Un héritage, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on utilise le prétexte du sport pour lancer des programmes sociaux, éducatifs, à grande échelle. Le magazine cite des exemples très concrets, un programme des stades au territoire, une campagne sur les valeurs du sport et même un volet spécifique pour l'inclusion des jeunes filles et des femmes. C'est une stratégie de soft power très, très bien pensée. On ne vend pas que des matchs de foot, on vend une image, un modèle de société.
Donc, si je comprends bien, c'est un pari double. D'un côté, prouver sa capacité organisationnelle au monde entier pour 2030, et de l'autre, utiliser cet investissement massif pour essayer de transformer la société de l'intérieur.
C'est exactement ça. Mais c'est un pari qui pose question. Le magazine ne chiffre pas le retour sur investissement attendu, et c'est tout l'enjeu. Est-ce que cet héritage social, aussi louable soit-il, suffira à justifier des dépenses pharaoniques si le boom économique n'est pas aussi spectaculaire que prévu? La question, elle, reste ouverte.
On passe des projecteurs des stades à une réalité beaucoup plus terre-à-terre. On change complètement d'échelle. On s'intéresse maintenant au quotidien économique et social. Et là, une mesure du gouvernement sort vraiment du lot. Une aide d'urgence. 6 milliards de dirhams débloqués pour les éleveurs de bétail.
Oui, et cette intervention directe de l'État, elle n'est pas anodine. Le chiffre de 580 000 bénéficiaires, c'est presque la moitié des éleveurs du pays. Ça montre l'ampleur de la crise que le secteur traverse. C'est une bouffée d'oxygène, c'est sûr, mais ça soulève une question plus structurelle.
Laquelle ?
Est-ce que le magazine évoque la dépendance croissante du secteur à ses aides, face à des sécheresses qui deviennent la norme et non plus l'exception ?
C'est une excellente question. L'article se concentre surtout sur l'urgence, l'efficacité du versement. Mais il ne développe pas cette perspective à long terme. En revanche, juste à côté, on a une note plus positive sur la pêche côtière en Méditerranée, une belle hausse de 6% en volume. Ça donne une image économique assez contrastée.
Un tableau en clair-obscur, oui. On a un secteur agricole stratégique sous perfusion de l'État et un autre, la pêche, qui semble plus dynamique. C'est le reflet d'une économie à plusieurs vitesses.
Et ce contraste, on le retrouve aussi sur le plan social. Le magazine titre sur une bonne nouvelle, et c'en est une. D'après un rapport du pouvoir judiciaire, les demandes d'autorisation de mariage de mineurs ont chuté. Une chute de plus de 17% en 2024. C'est un signal sociétal très fort.
C'est un indicateur fascinant, parce qu'à la différence de l'aide aux éleveurs, qui est une décision politique par le haut, cette baisse, c'est une évolution de fond, une dynamique sociale par le bas, beaucoup plus lente, plus organique. On voit donc deux Marocs qui coexistent, celui des grandes interventions de l'État et celui des mentalités qui changent discrètement sur la durée.
C'est vrai. Et pour complexifier encore le portrait, il y a une brève dans les pages Société qui rapporte une hausse continue des crimes de falsification ou d'usurpation d'identité sur les 20 dernières années. C'est comme si chaque progrès social ou technologique amenait son ombre, son revers de la médaille.
C'est le paradoxe de la modernisation. Plus la société se numérise, se complexifie, plus les opportunités de fraude se multiplient. Ça nous rappelle que le progrès n'est jamais une ligne droite et tranquille.
Et cette tension, on la retrouve de manière encore plus flagrante quand on regarde la scène internationale. Là, il y a un sujet qui écrase tous les autres, le dossier du Sahara. Ce qui est fou, c'est de voir à quel point ce sujet est absolument partout.
Partout, et à tous les niveaux. L'exemple le plus frappant, c'est dans le compte-rendu du débat sur la loi de finances 2026. Le chef du groupe parlementaire istiklalien a cette phrase choc. Il dit que le Sahara n'est pas une question de frontières, mais une question d'existence. Lier aussi directement le budget de la nation à ce seul enjeu, c'est une déclaration politique d'une force inouïe.
Il va même jusqu'à remercier publiquement et nommément les alliés du Maroc, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, pour leur soutien au plan d'autonomie. La diplomatie, ce n'est pas une ligne dans le budget, c'est le prisme à travers lequel tout le budget est pensé.
Et si on commet que les points, on voit une stratégie qui se déploie sur plusieurs fronts. Cette offensive politique au Parlement fait écho à une autre nouvelle plus discrète, la restructuration de la MINURSO. C'est la mission de l'ONU pour le Sahara qui est sur place depuis décennies. L'article suggère que son rôle, sa présence, diminue progressivement. Et c'est présenté comme une conséquence directe du succès de la diplomatie marocaine. On a l'offensive d'un côté et ses résultats concrets sur le terrain.
Et la stratégie ne s'arrête pas au couloir de l'ONU. Le volet sécuritaire est tout aussi actif. Là, je dois avouer, le magazine nous sort un détail digne d'un film d'action. Une opération conjointe Maroc-Espagne a démantelé un réseau de trafic de haschich par drone. Et attention, on ne parle pas de petits jouets.
Ah non.
Les drones pouvaient transporter jusqu'à 200 kilos par nuit.
On est loin du bricolage. Là, c'est de la logistique industrielle. Ce qui est révélateur ici, ce n'est pas tant le trafic en lui-même, mais c'est la double information. D'une part, la sophistication incroyable des réseaux criminels, et d'autre part, le niveau de coordination, d'efficacité de la coopération sécuritaire hispano-marocaine pour y faire face. C'est une autre façon de consolider son statut de partenaire incontournable.
Et ce tableau régional est complété par une note sur la reprise des vols directs entre le Maroc et Israël, annoncée par des médias israéliens.
Oui, avec une nuance de taille que le magazine prend soin de souligner. La compagnie nationale, Royal Air Maroc, précise ne pas être concernée pour l'instant. C'est un exemple parfait de la manière dont cette normalisation progresse par étapes, avec prudence, parfois par le biais d'acteurs privés, avant d'engager pleinement l'État. C'est un pas de diplomatique très calculé.
D'accord. Le magazine regarde le Maroc, mais il regarde aussi le monde à travers un prisme marocain. Faisons un petit tour de l'actualité internationale qui fait les gros titres. En France, la libération de Nicolas Sarkozy, sous contrôle judiciaire, après seulement 20 jours de prison. En Algérie, la libération de l'écrivain Boualem Sansal, apparemment suite à une intervention du président allemand.
Deux affaires judiciaires où le politique et le diplomatique s'invitent de manière très visible.
Complètement. Et puis, aux États-Unis, le grand spectacle Trump. D'abord, il met fin au shutdown le plus long de l'histoire américaine, et ensuite, le coup de théâtre, il reçoit à la Maison-Blanche le président syrien Ahmad al-Sharr. Le magazine précise que c'est la première visite d'un chef d'État syrien à Washington depuis 1946.
Un revirement géopolitique majeur, en effet, historique.
Alors, ce qui me frappe dans cette sélection, c'est que toutes ces infos tournent autour de figures de pouvoir très fortes. Sarkozy, Trump, le président allemand qui intervient. On dirait que le lectorat est fasciné par ces décisions unilatérales, ces coups de théâtre. C'est juste mon impression ou...
Non, non, je pense que c'est une lecture très juste. Ça révèle un intérêt profond pour les jeux de pouvoir, les rapports de force. Pour un pays comme le Maroc, qui est lui-même un acteur très proactif sur la scène diplomatique, observer comment les grandes puissances bougent leurs pions, c'est essentiel. Et cette rencontre entre Trump et le président syrien en particulier a dû être scrutée à la loupe à Rabat. Un tel rapprochement, ça rebat complètement les cartes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ça oblige à réévaluer ses propres alliances. Ce n'est pas de la simple curiosité, c'est de la veille stratégique.
Bien vu. Alors, si on devait faire la synthèse de cette plongée, l'image qui se dégage pour moi, c'est celle d'un pays qui est en pleine accélération, qui met le turbo, des infrastructures pharaoniques, une diplomatie hyperactive, une volonté de s'imposer comme un hub, une machine lancée à pleine vitesse, quoi.
C'est vrai. Il y a cette dynamique très visible, très volontariste. C'est une stratégie par le haut, portée par l'État, faite de grands projets, de décisions fortes. La CAN 2025 en est le symbole parfait. Mais ce que les sources nous montrent aussi, ce sont toutes ces réalités par le bas. Les agriculteurs qui luttent contre la sécheresse, les mentalités sur le mariage des mineurs qui évoluent lentement, la criminalité qui s'adapte.
Et donc, la pensée à méditer pour finir ?
La pensée finale, c'est la question de la connexion entre ces deux mondes. L'élan formidable de ces grands projets peut-il vraiment irriguer, transformer durablement le quotidien de toute la population ? La vraie question qui reste en suspens, c'est de savoir si ces deux Marocs, celui de la vitrine mondiale et celui du quotidien, avancent au même rythme. Ou si la fusée des grands projets risque de distancer le wagon des réalités sociales et de creuser un écart encore plus grand.